Chapitre 2 Élévation Suspendu Beauté blanche Deux autres Le médaillon. Le retour au monde du pistolero ne fut pas comme reprendre conscience après un coup, ce qui lui était déjà arrivé plusieurs fois, pas davantage comme se réveiller. Ce fut comme s'élever. « Je suis mort », pensa-t-il à un moment donné, quand il eut retrouvé une partie de sa capacité de penser. « Je suis mort, et je m'élève dans ce qui est la vie d'après la mort. Ça doit être ça. Les chants que j'entends doivent être les chants des âmes mortes. » À l'obscurité totale, succéda le gris foncé des nuages de pluie, puis le gris plus clair du brouillard. Enfin, ce gris-là s'éclaira uniformément pour prendre la nuance lumineuse d'une brume dense au moment où le soleil s'apprête à la dissiper. Et pendant tout ce temps, il ressentait l'impression de s'élever, comme s'il avait été pris dans un courant ascendant régulier et puissant. Puis, la sensation diminuant et la clarté augmentant à travers ses paupières closes, Roland finit par se dire qu'il était vivant. Ce furent les chants qui le convainquirent. Ce n'étaient pas des âmes mortes. Pas les bataillons angéliques parfois décrits par les prédicateurs de l'homme Jésus, mais seulement ces insectes qui stridulaient un peu comme des grillons, mais en plus doux, ceux qu'il avait entendus à Eluria. Là-dessus, il ouvrit les yeux. Sa conviction d'être encore en vie fut sévèrement mise à l'épreuve, car il se retrouva suspendu dans un monde de beauté blanche. Sa première et délirante pensée fut qu'il était dans le ciel, flottant à l'intérieur d'un nuage de beau temps. Tout autour de lui montait le chant flûté des insectes, et à présent, il entendait aussi le tintement de clochettes. Il voulut tourner la tête et sentit qu'il se balançait, pris dans une sorte de harnais, lequel craquait. La douce stridulation des insectes, comme celle des grillons à la fin du jour à Gilead, hésita et perdit son rythme. C'est alors que se déploya dans le dos de Roland une arborescence de douleur. Il n'avait aucune idée des ramifications exactes de ses branches, mais le tronc était indiscutablement constitué par sa colonne vertébrale. Une douleur beaucoup plus mortelle le mordait le bas d'une jambe, mais il était dans un tel état de confusion qu'il n'aurait su dire laquelle. « C'est là où j'ai été touché par la massue cloutée », songea-t-il. Il avait encore plus mal à la tête. Son crâne lui faisait l'effet d'une coquille d'œuf toute craquelée. Il poussa un cri, mais il eut du mal à croire que le croassement rauque qu'il avait émis venait de sa gorge. Il crut aussi entendre très vaguement l'aboiement du chien à la croix. Sans doute était-ce son imagination. « Suis-je en train de mourir ? Me suis-je éveillé une dernière fois avant le grand saut ?» Une main lui caressa le front. Il la sentait sans pouvoir la voir. Des doigts glissaient sur sa peau, s'arrêtant ici et là pour masser une bosse ou une ride. Aussi délicieux qu'un verre d'eau fraîche par une journée de canicule. Il commençait à fermer les yeux, lorsqu'une idée horrible lui vint à l'esprit. Et si cette main était verte? Si sa propriétaire portait une veste rouge au-dessus de ses nichons pendants? Et alors? Que pourrais-tu faire? « Chut, l'homme !» fit la voix d'une jeune femme, sinon celle d'une petite fille. En tout cas, la première personne à laquelle pensa Roland fut Suzanne, la fille de Mégis, celle qui lui avait parlé en le tutoyant. « Ou, chut, ne bouge pas. C'est beaucoup trop tôt. » La douleur dans son dos diminuait. Mais son image sous forme d'arbre restait, car sa peau elle-même lui faisait l'effet de bouger comme des feuilles dans une brise légère. Il renonça à sa question, à toutes ses questions, et se concentra sur la petite main fraîche qui lui caressait le front. « Chut, bel homme, l'amour de Dieu soit sur toi. Ce sont grandes blessures que tu as reçues. Ne bouge pas. Guéris. » Le chien n'aboyait plus. En admettant qu'il ait jamais existé, et Roland reprit conscience du même craquement léger. Il lui rappelait celui des chevaux attachés ou encore de quelque chose, ne coulant, de déplaisant. Il avait l'impression, à présent, de ressentir une pression sous ses cuisses, ses fesses et peut-être, oui, ses épaules. Je ne suis pas dans un lit. Je suis au-dessus d'un lit. Mais comment est-ce possible? Il s'imagina couché dans une sorte de hamac. Il lui semblait se souvenir d'un type que l'on avait suspendu ainsi dans une pièce du Toubib pour chevaux, derrière le grand hall. Il était enfant, alors. L'homme, un garçon d'écurie, avait été trop gravement brûlé par du kérosène pour être allongé dans un lit. Il était mort, mais pas assez vite. Pendant 2 jours et 2 nuits, ses cris avaient retenti dans l'air estival des champs de rassemblement. Serais-je brûlé, alors? Réduit à une enveloppe carbonisée avec 2 jambes suspendues dans un hamac? Les doigts le touchèrent au milieu du front, effaçant le pli qui s'y formait. Et c'était comme si la voix qui accompagnait la main avait lu dans ses pensées et les cueillait du bout de ses doigts habiles et bienfaisants. « Guéri seras-tu, si Dieu le veut ?» dit la voix. « Mais le temps appartient à Dieu, pas à toi. » « Non, aurait-il répondu s'il l'avait pu, le temps appartient à la tour. » Puis il s'enfonça à nouveau, glissant aussi doucement qu'il s'était élevé, s'éloignant de la main et des bruits onériques, stridulations d'insectes, tintements de clochettes. Il y eut un intervalle peut-être de sommeil ou peut-être d'inconscience, mais il ne retourna pas une seule fois tout en bas. À un moment donné, il crut reconnaître la voix de la jeune fille, sans pouvoir en être certain car cette fois elle s'élevait furieuse ou terrorisée, ou les deux. « Non, tu ne peux pas le finir maintenant et tu le sais. Va qu'à tes affaires et cesse d'en parler, va !» Quand il remonta de nouveau vers la conscience, s'il n'était pas plus solide dans son corps, il était un peu plus lui-même en esprit. Ce ne fut pas l'intérieur d'un nuage qu'il vit quand il ouvrit les yeux, mais, sur le coup, c'est la même expression de beauté blanche qui lui vint à l'esprit. C'était en un certain sens le plus bel endroit où Roland eût jamais été de toute sa vie, en partie parce qu'il était encore en vie, mais avant tout parce que tout y était si féerique et si paisible. La salle était gigantesque, haute de plafond, très longue. Lorsque Roland avait enfin tourné la tête, avec prudence, beaucoup de prudence, pour se faire autant que possible une idée de ses proportions, il l'avait évaluée à au moins 600 pieds de longueur. Elle était en revanche étroite, mais sa hauteur donnait une fabuleuse impression d'espace et de légèreté. Il n'y avait ni mur ni plafond semblable à ce qu'il connaissait, et il avait plutôt l'impression de se trouver dans une tente immense. Au-dessus de lui, le soleil diffusait sa lumière au travers de grands voiles de soie blanche, parcourus d'ondulations qui les transformaient en ces brillants bouillonnets qu'il avait de prime abord pris pour des nuages. Sous cette soyeuse canopée régnait un crépuscule gris. Les parois, également en soie, phaséillaient comme les voiles d'un bateau dans une brise trop faible. À chaque panneau vertical était suspendue une corde incurvée où étaient accrochées de petites cloches. Elles entraient en contact avec le tissu et tintaient doucement, à l'unisson, comme des orgues éoliennes, dès que les parois ondulaient. Une allée courait au milieu de la longue salle, entre des dizaines et des dizaines de lits, tous pourvus de draps et d'oreillers d'un blanc immaculé. Il y en avait peut-être 40 de l'autre côté de l'allée, tous vides, et 40 du côté de Roland. 2 autres lits étaient occupés ici, dont un juste à côté de celui de Roland. Ce type, c'est le garçon, celui qui était dans l'abreuvoir. Cette idée lui donna la chair de poule et une onde désagréable de superstition le fit sursauter. Il étudia plus attentivement son voisin endormi. « C'est pas possible. Je suis encore trop sonné, c'est tout. C'est pas possible. » Son examen, cependant, ne put chasser cette idée. Certes, on aurait bien dit le garçon de l'abreuvoir. Il avait l'air malade, et pour quelle autre raison serait-il dans un tel endroit, mais loin d'être mourant. Roland voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement, et sa main, qui pendait du bord du lit, tressaillait de temps en temps. « Tu ne l'as pas assez bien vu pour être certain de quoi que ce soit, et, au bout de quelques jours dans l'eau stagnante de l'abreuvoir, sa propre mère ne l'aurait pas reconnue. » Roland, cependant, qui avait eu une mère, ne s'y trompait pas. Il se rappelait aussi avoir vu le médaillon autour du cou du garçon. Juste avant d'être attaqué par les manants verts, il l'avait détaché et mis dans sa poche. Et quelqu'un, l'un des propriétaires des lieux, sans doute, ceux qui avaient, par sorcellerie, rendu à James sa vie interrompue, l'avait repris à Roland pour le replacer autour du cou du garçon. Était-ce la jeune fille aux mains merveilleusement fraîches qu'il avait fait? Et, de ce fait, prenait-elle Roland pour un détrousseur de cadavres? Cette idée lui déplaisait. En réalité, elle lui déplaisait même encore plus que celle que le corps boursouflé du jeune cow-boy aurait été rétabli dans ses proportions normales et rendu à la vie. Un peu plus loin le long de l'allée, toujours de son côté, à environ une douzaine de lits vides de lui, le pistolero vit le troisième détenu de cette bizarre infirmerie. Le personnage paraissait avoir quatre fois l'âge du garçon, deux fois celui de Roland Deschamps. Il portait une longue barbe, plus grise que noire, qui retombait sur sa poitrine en deux fourches emmêlées. Au-dessus, on voyait un visage brûlé par le soleil, fortement creusé de rides, avec des poches sous les yeux. Traversant sa joue gauche et escaladant son nez, il avait une épaisse marque noire qui faisait penser à une cicatrice. Le barbu était endormi ou inconscient, Roland l'entendait ronfler, et était suspendu trois pieds au-dessus de son lit, retenu dans un réseau compliqué de sangles blanches qui luisaient dans la pénombre. Entrecroisées, elles formaient une série de huit tout le long du corps de l'homme. Il avait l'air d'un insecte pris dans une toile d'araignée exotique. Il portait une camisole d'hôpital blanche en tissu diaphane. L'une des sangles passait sous ses fesses et lui soulevait le bassin, donnant l'impression de tendre ses parties intimes vers l'air gris et onirique. Roland apercevait également la forme sombre de ses jambes, qui paraissaient déformées comme de vieux troncs d'arbres. Le pistolero préférait ne pas imaginer en combien d'endroits elles avaient dû être cassées pour avoir cet aspect. Et, cependant, on aurait dit qu'elles bougeaient. Comment était-ce possible si le barbu était inconscient? C'était un tour que lui jouait la lumière, peut-être, ou les ombres, ou encore le tissu vaporeux dont l'homme était enveloppé ondulait-il dans une légère brise, ou... Roland détourna les yeux pour regarder les grands voiles de soie qui ondulaient, haut au-dessus de lui, essayant de contrôler les battements rapides de son cœur. Ce qu'il avait vu n'était provoqué ni par le vent, ni par les ombres, ni par quoi que ce soit d'autre. Les jambes de l'homme bougeaient sans bouger, comme Roland avait senti bouger son propre dos. Il ignorait ce qui pouvait produire un tel phénomène et préférait continuer à l'ignorer, pour le moment en tout cas. « Je ne suis pas prêt », murmura-t-il. Il avait les lèvres très sèches. Il referma les yeux, désireux de dormir, désireux de ne plus penser à ce que pouvait signifier le barbu et ses jambes torses quant à son propre état. « Mais tu as intérêt à être prêt. » C'était la voix qui paraissait toujours s'élever lorsqu'il essayait de se relâcher, d'éviter une tâche ou de ne pas vouloir voir un obstacle. La voix de Cort, son ancien professeur, l'homme dont tous, enfants, redoutaient la férule. Mais il ne redoutait pas autant sa férule que sa bouche, ses railleries quand il faisait preuve de faiblesse, son mépris, quand il se plaignait ou gémissait sur leur sort. « Es-tu un pistolero, Roland ?»« Si oui, tu as intérêt à être prêt. » Il ouvrit de nouveau les yeux et tourna la tête vers la gauche. Quelque chose alors se déplaça sur sa poitrine. Très lentement, il leva la main droite et la dégagea de la sangle qui la retenait. Dans son dos, la douleur s'agita et marmonna. Il interrompit son geste jusqu'à ce qu'il eût l'impression que la douleur n'allait pas devenir pire, s'il faisait attention, du moins, puis porta la main à sa poitrine. Elle toucha un tissu fin, du coton. Le menton lui effleurant la clavicule, il vit qu'il était vêtu d'une camisole semblable à celle qui s'enroulait autour du corps du barbu. Remontant jusqu'à son cou, Roland sentit une chaîne au maillon fin. Un peu plus bas, ses doigts rencontrèrent une forme rectangulaire en métal. Il pensait savoir ce que c'était, mais voulait en être sûr. Il l'attira hors de sa chemise, toujours délicatement, s'efforçant de ne pas faire appel aux muscles de son dos. Un médaillon en or. Tenant tête à la douleur, il le leva jusqu'à ce qu'il puisse lire ce qui était gravé dessus. « James, aimé des siens, aimé de Dieu. » Il remit le médaillon en place et se tourna vers le garçon endormi du lit voisin. Endormi dans le lit voisin et non suspendu au-dessus. Le drap n'était remonté que jusqu'à la hauteur de sa cage thoracique et son médaillon reposait sur le haut immaculé de sa camisole blanche. un médaillon identique à celui que portait à présent Roland, sauf que... Il pensa avoir compris, et ce fut un soulagement. Il revint au barbu et vit une chose des plus stupéfiantes. La cicatrice noire et épaisse que l'homme avait sur la joue et le nez quelques minutes auparavant avait disparu. À la place, il n'y avait plus que la marque rosâtre d'une blessure en voie de guérison, coup de couteau, voire même simple coupure. Je l'ai imaginé. « Non, pistolero, » reprit la voix de Corte. « Les hommes comme toi ne sont pas faits pour imaginer, et tu le sais bien. » Ces légers efforts l'avaient vraiment fatigué. La stridulation des insectes, combinée au tintement des clochettes, créait une berceuse trop séduisante pour qu'on pût y résister. Cette fois, lorsqu'il ferma les yeux, Roland s'endormit. Chapitre 3. Cinq sœurs. Jenna. Les médecins d'Eluria. Le médaillon. Une promesse de silence. Quand Roland se réveilla pour la deuxième fois, il crut qu'il dormait encore, qu'il rêvait, qu'il faisait un cauchemar. À l'époque où il avait rencontré Suzanne Delgado et était tombé amoureux d'elle, il connaissait une sorcière du nom de Réa, la première véritable sorcière de l'entre-deux-mondes qu'il n'eût jamais rencontrée. C'était elle qui avait provoqué la mort de Suzanne, même si Roland avait joué un rôle dans le drame. Mais maintenant, voyant Réa non pas à un exemplaire mais à cinq, il pensa « Voici ce qui arrive quand on s'attarde trop sur le passé. » En évoquant Suzanne, j'ai aussi évoqué Réa de la Cause, Réa et ses sœurs. Elles portaient toutes les cinq des tenues aussi blanches et chatoyantes que les parois et les grands voiles du plafond. Leurs visages de vieilles sorcières étaient encadrés de guimpes tout aussi neigeuses et leur peau, en comparaison, paraissait aussi grise et crevassée que de la terre desséchée. Telles des phylactères, des séries de minuscules clochettes pendaient aux bandeaux de soie qui emprisonnaient leurs cheveux, si tant est qu'elles en aient eu, et tintaient dès qu'elles bougeaient ou parlaient. Sur le plastron éclatant de leur habit était brodée une rose rouge sang, le sigule de la tour sombre. Ce que voyant, Roland se dit « Je ne rêve pas ». Ces vieilles aridelles sont bien réelles. Il se réveille, s'exclama l'une d'elles d'un ton qui débordait d'une coquetterie macabre. Oh, oh, ah! Elles s'agitaient comme des oiseaux. Celle du milieu avança d'un pas. Tous ses visages paraissaient chatoyés de la même façon qu'ondoyaient les parois de soie de la salle. Elle n'était pas si vieille en réalité, se rendit-il compte. D'âge moyen, mais pas vieille. « Si, elles sont vieilles, elles changent d'aspect. » Celle qui paraissait prendre à présent la direction des opérations était plus grande que les autres et avait un vaste front bombé. Elle se pencha sur Roland et les clochettes qui entouraient son front tintèrent. Ce bruit lui souleva l'estomac et le rendit plus faible qu'il n'était une minute avant. Il y avait de la concentration dans les yeux noisettes de la femme, peut-être de la convoitise. Elle lui effleura un instant la joue, et il rayonna de l'endroit touché une impression d'engourdissement. Puis elle baissa les yeux, et une expression qui aurait pu être de l'inquiétude déforma son visage. Elle fit disparaître sa main. « Tu t'éveilles, beau luron. Ainsi donc tu t'éveilles, c'est bien. Qui êtes-vous? Où suis-je? Nous sommes les petites sœurs d'Eluria. Moi, je suis sœur Marie. « Voici sœur Louise, sœur Michela et sœur Coquina. Et sœur Tamara, la coupa la dernière, une accorte gaillarde de 21 printemps. Elle se mit à pouffer. Son visage chatoya et pendant un instant, elle parut aussi âgée que le monde, crochue du nez, grise de peau. Roland pensa une fois de plus à Réa. Elles se rapprochèrent, encerclant le complexe réseau de harnais dans lequel il était suspendu. Et lorsqu'il eut un mouvement de recul, la douleur rugit dans son dos et sa jambe. Il poussa un grognement. Les sangles grincèrent. « Oh, ça fait mal! Ça lui fait mal! Horriblement mal !» Elle se pressait encore plus contre le lit, comme prise de fascination pour ses souffrances. Celle qui s'appelait sœur Michela tendit la main. « Allez-vous-en! Ne vous l'ai-je pas déjà intimé ?» Elles eurent un mouvement de recul soudain au son de cette voix. Sœur Marie parut particulièrement ennuyée. Mais elle recula aussi après avoir eu un dernier regard furieux, Roland en aurait juré, pour le médaillon qui reposait sur sa poitrine. Il l'avait remis sous sa chemise la dernière fois qu'il s'était réveillé, mais il était de nouveau dessus. Une sixième sœur apparut, s'ouvrant brutalement un chemin entre sœur Marie et sœur Tamra. La nouvelle venue n'avait peut-être que 21 ans, avec ses joues vivement colorées, sa peau lisse, ses yeux sombres. Son habit blanc ondulait comme un rêve. La rose rouge de son plastron ressortait comme une malédiction. « Allez-vous-en ! Laissez-le !»« Oh, ma chère !» s'écria sœur Louise d'une voix où rire et colère se mêlaient. « Regardez donc, Jenna, ce bébé ! Serait-elle tombée amoureuse de lui ?»« Tout juste !» s'exclama sœur Tamra en riant. « Le cœur de notre bébé lui est échu dans le marché !» « Oui, il en est bien ainsi !» confirma sœur Coquina. Sœur Marie se tourna vers la nouvelle arrivante, lèvres pincées. « Tu n'as rien à faire ici, petite impertinente !»«
Au contraire !»« Si c'est moi qui le dis !» répliqua sœur Jenna.
Elle paraissait mieux se contrôler. Une boucle noire s'était échappée de sa guimpe et lui dessinait une virgule sur le front.
« Et maintenant, partez !» Il n'est pas en état de subir vos plaisanteries et vos rires.
« Ne nous donne pas d'ordre, » dit sœur Marie, « car nous ne plaisantons jamais, comme tu ne l'ignores pas, sœur Jenna. » Le visage de la jeune femme changea d'expression, et Roland vit qu'elle avait peur. Lui-même en eut peur pour elle, et pour lui.
« Partez, » répéta-t-elle, « le moment n'est pas venu. Il y a les autres dont il faut s'occuper. »
Sœur Marie parut réfléchir, tandis que les sœurs Michela, Louise, Coquina et Tamra la regardaient. Finalement, elle acquiesça et sourit à Roland. Sa figure parut une fois de plus chatoyée, comme s'il la voyait à travers une brume de chaleur. Ce qu'il aperçut ou crut apercevoir, sous les traits brouillés, était horrible. Débordant de méfiance.
« Porte-toi bien, beau luron, » dit-elle à Roland. « Demeure près de nous. » Et nous te guérirons.
Comme si j'avais le choix, pensa Roland. Les autres éclatèrent de rires cristallins qui montèrent dans la pénombre comme des rubans. Sœur Michela souffla même un baiser dans sa direction.
Allez, venez, mes gentes dames, dit sœur Marie. Laissons sœur Jenna un moment avec lui en souvenir de sa mère que fort tendrement nous aimions.
Là-dessus, elle s'éloigna, ses compagnes sur les talons. 5 oiseaux blancs survolant l'allée centrale dans de grandes ondulations de voiles et de jupes.
« Merci, » dit Roland, levant les yeux vers la propriétaire des mains fraîches, car il avait compris que c'était elle qui lui avait touché le front.
Elle lui prit les doigts comme pour le lui prouver et se mit à les caresser.
« Elle ne voulait rien faire de mal, » dit-elle.
Roland toutefois vit qu'elle n'en croyait pas un mot, comme lui-même. Il était dans de mauvais draps ici, dans de très mauvais draps, même s'ils étaient immaculés. « Quel est cet endroit ?»«
Tu es chez nous, » répondit-elle simplement, « au foyer des petites sœurs d'Eluria. Notre couvent, si tu préfères. »
« Ce n'est pas un couvent. » Roland parcourut des yeux la rangée de lits vides. « Plutôt une infirmerie, non ?»«
Un hôpital, » dit-elle sans cesser de lui caresser les doigts. « Nous assistons les médecins, et les médecins nous assistent. »
Il était fasciné par la boucle noire qui s'incurvait sur son front crémeux. Il l'aurait volontiers caressé s'il avait pu tendre la main, juste pour en éprouver la texture. Il la trouvait d'autant plus belle que c'était la seule chose noire dans toute cette blancheur. Pour lui, le blanc avait perdu son charme.
« Nous sommes des hospitalières, » reprit-elle, « ou du moins nous l'étions, avant que le monde ne change. »
« Êtes-vous pour l'homme Jésus ?» Elle resta un instant interdite, presque choquée, puis se mit à rire joyeusement.
« Oh, non, pas nous !»«
Si vous êtes des hospitalières, des infirmières, où sont les médecins ?» Elle le regarda, se mordillant les lèvres comme si elle hésitait à lui répondre. Roland trouva son attitude dubitative absolument séduisante, et il se rendit compte que, malade ou non, il se prenait à regarder une femme comme une femme pour la première fois depuis la mort de Suzanne Delgado. ce qui datait de fort longtemps. Le monde avait complètement changé depuis, en effet, et pas dans le bon sens.
« Tu veux vraiment le savoir ?»«
Oui, bien sûr, » dit-il un peu surpris, un peu mal à l'aise aussi. Il s'attendait à voir son visage chatoyer et se transformer comme l'avaient fait ceux des autres, mais non. Elle ne dégageait pas non plus cette odeur déplaisante de terre morte.
« Attends un peu, » il se mettait lui-même en garde. « Ne crois rien de ce que tu vois ici, ne crois rien de ce que te disent tous tes sens, pas encore. »
« Tu dois sans doute le vouloir, » dit-elle avec un soupir.
Ce qui fit teinter les clochettes à son front, des clochettes qui étaient d'une couleur plus sombre que celle des autres, non pas exactement noires comme ses cheveux, mais calcinées ou noircies comme si elles avaient été suspendues au-dessus d'un feu dans la fumée. Elles émettaient néanmoins un son argenté des plus purs.
« Promets-moi seulement que tu ne crieras pas. Il ne faut pas éveiller le damoiseau si gisant. »
Le damoiseau ?
Le garçon ! Promets-tu ?
Oui, da, répondit-il en retrouvant sans presque s'en rendre compte le patois de l'arc extérieur qu'il avait presque oublié, le dialecte de Suzanne.
Cela fait longtemps que je n'ai pas crié, ma mignonne.
Elle rougit, sans conteste, et le rose qui lui monta aux joues était beaucoup plus naturel et vivant que celui de la fleur qui ornait son plastron.
Ne me dis pas que je suis mignonne. « Alors que si peu tu vois,
dans ce cas, repousse ta guimpe. » Son visage, il le voyait fort bien, mais il désirait vivement voir aussi ses cheveux. C'était presque un besoin, un flot de noir au milieu de cette blancheur de rêve. Il risquait d'être coupé court, évidemment, telle était peut-être la règle de son ordre. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas.
« Non, c'est interdit. »
« Par qui ?»«
Par sœur supérieure. »
Celle qui s'appelle Marie ?
Oui, da, elle.
Elle s'éloigna d'un ou deux pas, puis s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. De la part d'une jeune fille de son âge et de sa beauté, un tel regard aurait été aguicheur. Le sien n'était que grave.
N'oublie pas ta promesse.
Oui, da, pas de cri. Dans l'envol de sa jupe, elle se rendit auprès de l'homme barbu. Dans la pénombre, elle ne projetait qu'une esquisse d'ombre sur les lits devant lesquels elle passait. Lorsqu'elle arriva près de lui, le barbu était inconscient, pensa Roland, pas simplement endormi. Elle se retourna une fois de plus vers Roland. Il hocha la tête. Sœur Jenna s'approcha encore un peu de l'homme suspendu, se tenant de l'autre côté du lit, si bien que Roland la voyait dans l'entrelac des sangles en soie blanche. Elle posa deux mains légères sur la poitrine de l'homme, se pencha sur lui et secoua la tête, comme si elle exprimait un refus catégorique. Les clochettes qu'elle portait au front se mirent à tinter sur un mode strident, et Roland sentit une fois de plus l'étrange mouvement dans son dos accompagné d'une onde de douleur, comme s'il avait frissonné sans vraiment frissonner ou frissonné en rêve. Ce qui se passa ensuite faillit bien lui arracher un cri, car il dut se mordre la lèvre pour le retenir. Une fois de plus, les jambes de l'homme inconscient parurent bouger sans bouger, car ce qui bougeait était ce qui se trouvait dessus. Les mollets poilus, les chevilles et les pieds du barbu dépassaient de l'ourlet de sa camisole. Une vague noire d'insectes roulait dessus. Il stridulait férocement comme une armée qui entonnerait une marche martiale. Roland se souvint de la cicatrice noire sur le visage du barbu, la cicatrice qui avait disparu. Les mêmes bestioles, pardi. Il y en avait aussi sur lui. C'était à cause d'elle qu'il pouvait frissonner sans frissonner. Il en avait sur tout le dos, se repaissant de lui. Non, retenir son cri n'avait pas été aussi facile qu'il l'avait pensé. Les insectes coururent jusqu'aux orteils de leur hôte, sautant alors par vagues tels des bataillons de nageurs qui se jetteraient à l'eau depuis un quai. Ils se regroupaient sur le champ et sans difficulté sur le drap blanc, en dessous, et se dirigeaient ensuite en colonne d'un pied de large vers le plancher. Roland ne les distinguait pas très bien. Ils étaient trop loin et la lumière était insuffisante. Mais leur taille devait être à peu près le double de celle de fourmis et pas tout à fait celle de grosses abeilles qui écumaient les parterres de fleurs chez lui autrefois. Ils stridulaient en avançant. L'homme à la barbe, lui, ne chantait pas. Pendant que les essaims d'insectes qui avaient recouvert ses jambes tordues refluaient de son corps, il frissonnait et grognait. Sœur Jenna posa la main sur le front de l'homme et le calma, rendant Roland un peu jaloux, en dépit de la répugnance qu'il éprouvait à ce spectacle. Mais ce qu'il voyait était-il réellement si abominable? À Gilead, on employait les sangsues pour traiter certaines affections, engorgement du cerveau et surtout congestion aux aisselles et haleines. Quand il s'agissait du cerveau, les sangsues, aussi immondes qu'elles fussent, étaient sans aucun doute préférables à ce qui serait sinon l'étape suivante du traitement, la trépanation. Il y avait cependant quelque chose d'immonde dans ce pullulement d'insectes, peut-être parce qu'il ne les voyait pas bien. Et il trouvait horrible et répugnant de les imaginer qui grouillaient sur toute la surface de son dos pendant qu'il pendait ici, dans ses sangles impuissants. Mais il ne stridulait pas, cependant. Pourquoi? Parce qu'il se nourrissait? Parce qu'il dormait? Les deux? Les grognements du barbu s'arrêtèrent peu à peu. Les insectes défilèrent sur le plancher pour aller se perdre dans les ombres d'un mur de soie qui ondulait légèrement. Sœur Jenna revint jusqu'à lui, l'expression anxieuse. « Tu as été bien. Et cependant, j'ai vu ce que tu ressentais. C'est encore sur ton visage. Les médecins, oui. Leur pouvoir est très grand, mais... » Sa voix baissa d'un ton. « J'ai peur qu'il ne puisse plus rien pour le Bouvier. Ses jambes vont un peu mieux et toutes les blessures de sa figure sont guéries, mais il est affecté en des endroits que les médecins ne peuvent atteindre. » Elle porta la main au milieu de son corps, indiquant sans doute l'emplacement de ses blessures, mais pas leur nature. « Et moi ?» demanda Roland. « Tu as été victime de l'ire des manants verts. Sans doute les as-tu mis très en colère, car ils ne t'ont pas tué séance tenante. Ils t'ont attaché et traîné au sol. Tamra, Michela et Louise étaient parties cueillir des simples. Elles ont vu les manants verts s'égayer à tes dépens et leur ont intimé de s'arrêter, mais... Les mutants vous obéissent-ils toujours, sœur Jenna ?» Elle sourit, peut-être contente qu'il se fût rappelé son nom. « Pas toujours, mais la plupart du temps. Cette fois-ci, ils l'ont fait, sans quoi tu aurais trouvé la clairière au bout de ta route. »« Sans doute. Tu n'avais pratiquement plus de peau sur le dos. Rouge, tu étais, et cela de la nuque à la taille. Tu garderas toujours des cicatrices, mais les médecins t'ont déjà beaucoup fait avancer vers la guérison. Et leur chant est de toute beauté, non ?»« Oui. » répondit Roland, bien que l'idée de ces bestioles noires lui recouvrant tout le dos et faisant bombance de ses chairs à vif le révolta toujours. « Je vous dois des remerciements et je vous les présente bien volontiers. Tout ce que je pourrais faire pour vous, alors dis-moi ton nom. » « Roland de Gilead. Je suis pistolero. J'avais des revolvers, sœur Jenna. Les avez-vous vus ?»«
Non, je n'ai vu aucune arme à feu. »
Elle détourna toutefois le regard. Les roses s'épanouirent de nouveau à ses joues. C'était peut-être une bonne infirmière et une jolie femme, mais une piètre menteuse, se dit Roland. Il en fut content. Les bons menteurs ne sont que trop nombreux. L'honnêteté, elle, n'était que trop rare. « Laissons cela pour le moment, se dit-il. C'est la peur qui l'empêche de dire la vérité. » « Jenna !» L'appel provenait de la pénombre plus profonde qui régnait à l'autre bout de l'infirmerie, laquelle paraissait encore plus grande au pistolero aujourd'hui, et sœur Jenna sursauta, l'air pris en faute.
« Viens tout de suite. Tu as débité tant de paroles qu'elles auraient suffi à distraire 20 hommes. Laisse-le dormir. »«
Oui, da !» lança-t-elle. Puis elle se tourna vers Roland. « Ne dites à personne que je vous ai montré les médecins. »
« Motus et bouche cousue, Jenna. » Elle hésita, se mordillant une fois de plus la lèvre, puis rabattit soudain sa guimpe, qui retomba dans son dos dans le léger tintement de ses clochettes. Libérée du tissu, ses cheveux retombèrent sur ses joues comme des ombres.
« Est-ce que je suis jolie ?»« Vraiment, dites-moi la vérité, Roland de Gilead. Je ne veux pas de flatterie, car la flatterie ne vaut pas la longueur d'une chandelle. »«
Belle comme une nuit d'été, sœur Jenna. » Ce qu'elle lut sur le visage du pistolero parut lui faire encore plus plaisir que ses paroles, car elle le récompensa d'un sourire radieux. Elle remit sa guimpe en place et repoussa ses cheveux dessous à petits gestes vifs.
« Est-ce que je suis décente ?»«
Aussi décente que belle, » répondit-il. Puis, déplaçant sa main avec précaution,
Il pointa un doigt. Une mèche dépasse encore. Juste là.
Ah ! Toujours la même qui fait la folle.
Avec une petite grimace comique, elle la glissa sous le tissu. Comme il aurait aimé déposer un baiser sur ses joues roses, et peut-être aussi sur sa bouche rose, tant qu'il y était.
« Voilà, c'est parfait, » dit-il. « Jenna !»
L'appel était plus impatient que jamais. « Méditation !»«
J'arrive tout de suite !»
répondit-elle, rassemblant ses jupons pour partir. Elle se retourna cependant encore une dernière fois, l'expression grave et tout à fait sérieuse.
« Une dernière chose !»
commença-t-elle d'une voix qui était presque un murmure. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle.
« Le médaillon que tu portes, tu le portes parce qu'il est à toi. Tu me comprends, James ?»«
Oui. » Il tourna légèrement la tête pour regarder le garçon endormi. « Et celui-ci est mon frère ?»«
Si on te le demande, oui. Si tu disais autre chose, sœur Jenna aurait de sérieux ennuis. »
Sérieux à quel point, il ne le lui demanda pas, d'autant qu'elle était déjà partie, donnant l'impression de flotter dans l'allée qui courait entre les lits vides, les voiles de sa jupe retenues d'une main. Les roses avaient disparu de ses traits et son front et ses joues étaient devenus couleur de cendre. Il se souvint du regard avide qu'avaient eu les autres. Comment elles s'étaient réunies autour de lui en un cercle qui se resserrait peu à peu, la façon dont leurs visages s'étaient mis à chatoyer. Six femmes, cinq vieilles et une jeune. Des médecins qui chantaient et partaient en rampant sur le sol lorsque des tintements de clochettes les chassaient. Et un improbable pavillon d'hôpital, contenant peut-être 100 lits, un pavillon au toit de soie, au mur de soie, et dont tous les lits étaient vides sauf trois. Roland ne comprenait pas pourquoi sœur Jenna avait pris le médaillon dans la poche de son pantalon pour le lui mettre au cou. Mais il soupçonnait que, si jamais les petites sœurs d'Eluria le découvraient, elles étaient capables de la tuer. Roland ferma les yeux et une fois de plus, la douce stridulation des mets d'insectes le fit dériver vers le sommeil.